Docteur Ted Riel de Brent, OT Histoire, Li.
Et théologie, conférence 18. Copyright symbole copyright 2020, Ted Riel de Brent. Il s'agit du docteur Ted Riel de Brent dans son cours d'histoire, de littérature et de théologie de l'Ancien Testament sur les lois difficiles du livre du Deutéronome et une introduction au livre de Josué jusqu'à la prise de Jéricho. A aperçu du quiz entre minuit et 2h26. Pour jeudi, vous travaillez sur un Samuel. Quelqu'un vient de me rappeler après le dernier cours qu'il y a un devoir pour Get Lost in Jerusalem là-dedans, et le problème est que je ne vous ai pas configuré pour le logiciel Get Lost in Jerusalem. Alors laissez-moi vérifier cela et nous repousserons cela d'une semaine. Je vais vous montrer Get Lost in Jéricho aujourd'hui et nous ferons donc un voyage virtuel à Jéricho. Vous voulez aller à Jéricho aujourd'hui? Oui, nous irons à Jéricho. Ce sera en quelque sorte un voyage virtuel à Jéricho. Mais le même type de technique que vous voyez pour Jéricho sera le même que celui que vous utiliserez pour les aventures de Jérusalem. Pour jeudi, vous travaillez sur un Samuel et quelques psaumes. Faites tout là-dessus, sauf Get Lost in Jérusalem et je vous organiserai cela pour la semaine suivante. Aujourd'hui, je vais être un autre de ces jours difficiles où nous allons lutter avec le livre du Deutéronome et cela va être quelque chose de difficile. Nous allons donc demander un mot de prière, demander des conseils sur ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Père, nous te remercions pour cette journée. Nous vous remercions pour la parole que vous avez prononcée. Vous avez parlé à un peuple il y a 3000 ans et vous l'avez fait enregistrer pour nous. Nous prions pour que vous puissiez nous aider, au XXIe siècle, à nous remettre dans la peau et à comprendre ce que vous faisiez il y a 3000 ans. Il est difficile pour nous, Père, à différents moments, de comprendre cette culture, cette époque, certaines des lois qui ont été adoptées, nous n'en avons vraiment aucune idée. Donnez-nous autant de compréhension que possible. Nous prions pour que ces discussions d'aujourd'hui vous honorent et que nous puissions vous rendre gloire et vous remercier pour votre merveilleux Fils Jésus-Christ, et en son précieux nom, nous prions. Amen. Belle ironie de la tolérance et de la diversité entre 2h27 et 6h05. Nous allons parler de quelques concepts difficiles aujourd'hui. Je souhaite donc discuter de certaines lois du livre du Deutéronome qui nous secouent les os. C'est toujours une période difficile et en fait, cela a été intéressant pour moi, au fil des années, d'observer les étudiants et de vous voir, vous qui êtes fiers de votre diversité et de votre tolérance. La diversité et la tolérance sont-elles vos deux grands principes éthiques du XXIe siècle? Diversité et tolérance. Pouvez-vous tolérer toutes sortes de choses? Une personne, comment dire, autrefois, les choses étaient considérées comme vraiment immorales. Maintenant, un mec couche avec une fille et ce qui arrive, ce n'est pas grave. Cela arrive à la télévision, dans les films et dans la vraie vie. Ce n'est pas grave. Pourtant, il y a des années, c'était une affaire énorme. Cependant, dans notre culture, si vous dites les mauvaises choses et utilisez les mauvais mots, vous êtes crucifié, vous êtes absolument crucifié. Alors maintenant, nous sommes tellement dans la tolérance, mais pourtant notre tolérance conduit elle à l'intolérance. Ce que je suggère, c'est que toute cette insistance sur la tolérance et la diversité a en fait conduit à l'intolérance. Ainsi, par exemple, à l'Université catholique de Washington DC, il y a des étudiants musulmans qui suivent des cours à l'Université catholique. Ces étudiants musulmans ont dit qu'il était offensé par Jésus sur une croix. Dans une université catholique, ils ont en fait des croix avec Jésus sur la croix. Ces étudiants musulmans sont offensés par cela et ils voulaient qu'ils soient retirés parce que cela les offense. Est-ce que cela va maintenant être porté devant un tribunal américain et va-t-il décider si une école catholique a le droit d'ériger un crucifix? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec cette image? À quand remonte la dernière fois que vous étiez dans une mosquée et que vous leur avez dit que vous étiez offensé et que vous vouliez une croix dans la mosquée? Tu vois ce qui t'arrive. Donc ce que je dis, c'est que nous sommes devenus tellement intolérants envers le christianisme, c'est fou, tout est sens dessus dessous. Maintenant, quel est le problème? Il vous faut maintenant remonter 3000 ans en arrière. Question, notre culture a-t-elle subi toutes sortes de changements au cours des 50 dernières années? Maintenant, si vous remontez 3000 ans en arrière, vous constaterez que les codes de loi d'il y a 3000 ans ne sont vraiment pas en phase avec leur façon de penser. L'ironie pour moi, c'est que les Américains du 21e siècle portent vraiment un jugement lorsque nous regardons en arrière et disons, comment ont-ils pu faire ces choses, ils étaient si cruels. Nous considérons ces gens comme des barbares. C'est un peu ironique que nous portions un jugement alors que nous sommes censés être si tolérants. Voyez-vous l'ironie là-dedans? Je vais vous montrer des choses difficiles à comprendre. Pour être honnête avec vous, j'ai du mal avec ces choses jusqu'à ce jour. Je ne suis pas sûr d'avoir les réponses à toutes ces choses. Mais ce sont des choses que je pense que je devrais mettre sur la table et j'espère que dans 10 ans, lorsque vous serez vraiment intelligent, vous comprendrez et m'enverrez un email et me direz quelle est la réponse sur certains de ces points. Mais nous travaillerons avec certaines de ces lois. Ce sont des lois du livre du Deutéronome qui font trembler nos os. Ils entrent en conflit avec notre culture, avec notre état d'esprit et avec notre façon de voir les choses. C'est des lois dures, la guerre entre 6h06 et 17h33. Certaines de ces lois concernent la guerre. Particulièrement dans le livre de Josué. Nous discuterons du concept de guerre dans le livre de Josué. Mais je vais le présenter ici. En fait, nous ne travaillerons pas avec cela tant que nous ne serons pas pleinement entrés dans Josué. Josué a beaucoup de batailles à mener. Josué correspondait à la bataille de Jéricho, à ce genre de choses, les lois de la guerre. Donc, si vous regardez Deutéronome, chapitre 20, verset 4, vous trouverez ici toute une section sur les lois relatives à la guerre. Au fait, existe-t-il aujourd'hui des lois sur la guerre dans notre monde? Quelqu'un connaît-il la Convention de Genève? Existe-t-il certaines manières de faire les choses qui sont justes? Par exemple, protégeons-nous les prisonniers de guerre? Quoi qu'il en soit, voici quelques lois qui ressortent du chapitre 20 de Deutéronome, puis, il est dit au verset 4, « L'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis. » Passez au verset 4. Les officiers diront à l'armée, quelqu'un a-t-il construit une nouvelle maison et ne l'a pas encore consacrée? Laissez-le rentrer chez lui. En d'autres termes, si vous construisez une maison et que vous ne l'avez pas consacrée, que vous n'y avez pas encore vécu, vous êtes autorisé à rentrer chez vous. Est-ce une bonne loi? Si une personne part en guerre et vient de construire une maison, où sera sa tête? Vont-ils retourner dans leur maison dans laquelle ils n'ont jamais vécu? Ils partent se battre, est-ce que leur tête va vraiment s'y consacrer ou vont-ils y retourner? Alors Dieu dit, si vous venez de construire une maison et que vous ne l'avez jamais habitée ni consacrée, rentrez chez vous, vivez dans votre maison, laissez les autres se battre. Est-ce que quelqu'un se souvient qu'après la guerre civile, il y avait une guerre appelée Vietnam? À l'époque du Vietnam, ils enrôlaient les étudiants. J'étais donc étudiant et tu as eu un numéro. J'oublie, je pense que j'étais dans les 230, donc cela signifiait que si j'étais dans les 230, je ne serais pas repêché. Si vous obtenez un chiffre faible, supposons que votre chiffre soit 10, vous appartenez au passé. Avez-vous été enrôlé dans l'armée, que cela vous plaise ou non, à la sortie de l'université, alors que faites-vous ensuite? Eh bien, tu te maries. Si vous vous mariez, vous bénéficiez d'un sursis. Je pense que c'est Dick Cheney qui a fait ça. Je dis cela parce que vous connaissez Dick Cheney dans le rôle de Dark Vador, et en fait, c'est l'un de mes héros. Je dis que pour vous mettre un peu en face, vous devez écouter les conférences de Cheney, ce sont des choses brillantes là-bas, en fait, malgré ce que la culture médiatique pense de lui. Donc, si vous avez une maison, vous bénéficiez d'un sursis et une deuxième règle apparaît alors. Il est dit qu'il existe une exemption pour le mariage. Si vous êtes fiancé à une femme et que vous êtes sur le point de vous marier avec elle, êtes-vous censé partir à la guerre? Non. Au fait, quel est le problème? Si un homme part à la guerre et que sa tête est sur sa femme à la maison, va-t-il se faire tuer à la guerre parce que sa tête n'est pas dans la guerre? À propos, même en Amérique dans les années entre 60 et 70, y avait-il un sursis pour quelqu'un qui était marié? Vous avez obtenu un sursis. Ces lois ont-elles un sens pour nous? Donc ceci s'intègre plutôt bien. Ce n'est pas le cas de toutes les lois sur la guerre. Donner une chance à la paix, tout ce que je dis, c'est donner une chance à la paix. J'ai vu quelqu'un sourire, du moins il le sait, une vieille chanson des années 70, Give Peace a Chance. Ceci est Deutéronome chapitre 20 verset 10. Il dit que lorsque vous marchez pour attaquer une ville, faites à ses habitants une offre de shalom paix. Lorsque vous venez attaquer une ville, offrez à la ville shalom / paix. S'ils acceptent et ouvrent leurs portes, tout le monde sera soumis et forcé de travailler. Ils travailleront pour vous et seront essentiellement des bûcherons et des porteurs d'eau. Alors vous épargnez la ville. Encore une fois, c'est bien, donnez une chance à la paix. Quand vous lisez Josué, vous souvenez-vous d'eux faisant cela. Vous savez, ils arrivent dans une ville et disent, « Paix, paix bébé, paix, sort. » Ce n'est jamais enregistré. Juste parce que ce n'est pas enregistré, cela signifie-t-il qu'ils ne l'ont pas fait? Non, ils ont fait beaucoup de choses qui ne sont pas enregistrées. Il est donc possible qu'il ait fait ça, mais cela n'a jamais vraiment été enregistré. Cela m'amène donc à un autre point que je veux souligner dans le livre du Deutéronome, y a-t-il beaucoup de choses dites sans qu'il n'y ait aucune trace de ce qu'ils ont réellement fait? Est-il possible qu'il ait eu des lois qu'ils n'ont pas appliquées? Question, en Amérique, avons-nous des lois que personne n'applique? Secouez la tête, oui. Nous en avons des tonnes. En fait, les gens disent maintenant que même le gouvernement lui-même dit que nous avons choisi de ne pas appliquer ces lois. Il existe des lois en vigueur et le gouvernement dit que nous choisissons de ne pas les appliquer. Alors donnez une chance à la paix, tout ce que je dis, c'est donner une chance à la paix. Ce sont les plus faciles, celui-là est difficile. Cela s'appelle le principe RERM et cela se trouve au chapitre 20, verset 17. La forme verbale est ARAM. Maintenant, RERM, ça se prononce RERM, c'est un H dur, RERM signifie, destruction totale. Cela signifie, en fait, permettez-moi de revenir en arrière, cela signifie en fait, consacré au Seigneur. Mais vous l'avez consacré au Seigneur en le brûlant et en tuant tout ce qui se trouvait dans la ville, hommes, femmes, enfants et animaux. La ville entière a été totalement détruite. Au fait, ont-ils déjà fait cela et détruit une ville entière, des hommes, des femmes et des enfants? Quel était le nom d'une des villes où ils ont fait ça? Jéricho. Ont-ils épargné quelqu'un à Jéricho? Oui, Rahab la prostituée a été épargnée, mais le reste des habitants de la ville a été tué. Donc ce principe du RERM est vraiment difficile pour nous en tant qu'Américains, vous dites, bon sang, ils entrent là-dedans et tuent tout le monde, hommes, femmes et enfants, comment pouvez-vous faire ça? Est-ce une situation difficile? Des hommes, des femmes, des enfants et des animaux ont été consacrés au Seigneur et brûlés. Diverses choses ont été tuées par l'épée. Quelqu'un a demandé, comment expliquez-vous le fait que des soldats viennent tuer des bébés et tuer tout le monde dans la ville? Comment expliquez-vous cela? La vérité honnête est que je ne sais pas quelle est la réponse à cette question. Cela me dérange un peu, je comprends certaines choses, et quand nous entrerons dans le livre de Josué, nous essaierons d'entrer dans les explications, mais quand même, c'est vraiment dur. L'Amérique a-t-elle déjà fait quelque chose de pareil? Eh bien, en fait, nous avons largué une bombe et elle a détruit tous les hommes, femmes, enfants et animaux. Je ne veux pas que vous pensiez que parce que vous êtes des Américains du 21e siècle, vous êtes au-dessus de tout cela et que c'était des barbares cruels. En fait, beaucoup de gens ont été tués lorsque la bombe atomique a explosé, des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, tout. Au fait, c'est mauvais, nous ne voulons pas larguer des bombes tout le temps, mais ils l'ont fait pour épargner des vies. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, qui sait combien d'autres seraient morts. Je ne veux pas entrer dans la justification de cela. Cela tient en partie à la justification de la guerre, et cela s'explique en partie par le fait que lorsque vous êtes en Amérique et que vous êtes assis dans un cadre universitaire, disons-nous toujours la paix et l'amour et tout ce genre de choses. Parce que quoi, devons-nous réellement aller sur place et mener le combat? Non. Nous avons quelqu'un d'autre qui le fait pour nous et nous voulons rester assis dans notre académie avec notre génie et leur dire ce qu'ils devraient faire alors que ce sont eux qui doivent le faire. Voyez-vous l'arrogance de la position universitaire? Ce que je dis, c'est d'être prudent lorsque vous pensez avoir tout compris alors que vous n'avez jamais eu à sortir une arme à feu et à mettre une perle sur quelqu'un. C'est une chose très différente de ce que vous imaginez. Donc ce que je dis, c'est de faire attention à l'arrogance académique. L'autre question qui me vient à l'esprit est telle, Dieu juge-t-il cette culture cananéenne? Oui, il le jugeait. Il dit, j'ai attendu 400 ans, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore pleine. Il a attendu 400 ans. Puis il envoie Israël pour faire cela en guise de jugement sur cette culture. Dieu juge-t-il les cultures? Oui, Sodome et Gomorre. Maintenant, il utilise les Israélites pour faire cela. Mais vous dites que arrive-t-il à tous ces gens? Lorsque des nourrissons sont tués, que se passe-t-il de l'autre côté? En d'autres termes, suis-je un être humain limité, est-ce que je comprends comment Dieu agit? Puis-je siéger en jugement de Dieu? On m'a juste demandé comment justifiez-vous que Dieu fasse cela. Je ne justifie pas Dieu. Est-ce que Dieu me justifie? Je ne peux pas justifier Dieu parce que je ne comprends pas tout cela. Que se passe-t-il? Je sais ce qui se passe dans la vie, mais que se passe-t-il après la vie? Est-il possible que ces bébés tués aillent au paradis et que les choses s'améliorent pour eux? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui arrive ensuite à toutes ces situations. Donc ce que je dis, c'est que je ne peux pas porter de jugement là-dessus, tout ce que je peux dire, c'est que je fais confiance à Dieu. Il y a un certain point où il faut reculer. J'ai mis ces lois ici en partie parce que je veux vous casser la tête. Pour vous donner des trucs où vous ne pouvez pas mettre Dieu dans votre jolie petite boîte, Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie. Ce genre de loi vous ouvre la tête à ce sujet et vous dit attendez une minute, Dieu dépasse ma compréhension. Je ne peux pas comprendre Dieu. Mon truc c'est que je n'arrive même pas à comprendre ma femme, comment vais-je comprendre Dieu? Parfois, je n'arrive pas à comprendre une autre personne qui est très proche de moi, comment puis-je comprendre pourquoi et comment Dieu administre les choses? Dieu peut-il administrer la justice de l'autre côté de la mort dont je n'ai aucune idée? Donc, je ne peux pas nécessairement porter un jugement sur Dieu quand je n'ai pas une vue d'ensemble, je n'ai nulle part où me placer pour porter un véritable jugement à ce sujet. Ces lois REM sont donc très difficiles. Le tout est consacré au Seigneur et brûlé au Seigneur. Israël n'a pas beaucoup fait cela, ils l'ont fait sur Jéricho, sur Haï et Rézé, ils l'ont fait sur trois villes, donc c'est une grosse affaire. C'est généralement une question difficile à comprendre pour les Américains, en particulier pour les gens du 21e siècle. Nous reviendrons sur le REM lorsque nous le verrons réellement dans Josué. Joshua a effectivement mis en œuvre celui-là. C'est difficile maintenant. Des lois sur le viol entre 17h34 et 20h07. Autre loi qui nous ébranle les os, les lois sur le viol. La Bible contient en fait quelques lois sur le viol au chapitre 22, verset 23, permettez-moi de résumer ces versets. La Bible fait une distinction entre un viol en ville et un viol sur le terrain. Chaque fois que vous êtes confronté à ces situations de viol, avez-vous droit à un genre de choses qu'il a dit / elle a dit? Il a répondu, non, c'était consensuel. Elle a consenti. Mais elle a répondu, je n'ai pas consenti. Donc vous avez sa version qui était consensuelle, sa version et qu'elle n'était pas consensuelle. Vous avez ces grands débats. Vous connaissez récemment ce type du FMI, je pense qu'il était candidat à un poste en France. Êtes-vous au courant de cela? Il briguait un poste en France. Cette femme de New York était femme de ménage et elle a apparemment affirmé qu'il l'avait agressée. Il a donc été mis en prison à New York et, soit dit en passant, les élections ont eu lieu en France. Puis, immédiatement après la tenue des élections, qu'ont fait les femmes, elle a abandonné toutes les accusations. Est-ce que quelqu'un a dit, est-ce que ça semble un peu louche? Est-ce que les gens feraient faire ça à quelqu'un? Ces questions sont complexes. Je n'essaie pas de défendre ce type, tout ce que je dis, c'est est-ce que ça sent le poisson quand toutes les charges sont abandonnées? Il ne peut pas aller aux élections et vous vous posez simplement des questions à ce sujet. C'est compliqué. On dit donc en ville que si une femme est violée, elle doit crier. Que se passe-t-il quand elle crie? Les gens viennent l'aider. Elle est responsable de crier si elle est en ville et si elle est violée. Quel est le problème sur le terrain dans le pays? Elle crie et il n'y a personne, donc ça n'a pas d'importance. Donc sur le terrain, ça ne fera aucune différence, elle n'est pas obligée de crier. Elle peut crier autant qu'elle veut et personne ne l'entendra parce qu'elle est sur le terrain. Cela faisait donc cette distinction. Maintenant, y a-t-il beaucoup d'autres choses que nous disons, si je le faisais, je le ferais de cette façon. Si elle est sur le terrain, elle doit crier pour montrer son refus, et fondamentalement, elle est violée. Bien sûr, vous pouvez ensuite simplement effectuer une vérification ADN et vérifier quel est le problème. Pas de test ADN à l'époque. Je veux dire, rien de ce genre de trucs médico-légaux. Peine de mort entre 20h08 et 23h33. Ils ont des lois sur la peine de mort. C'en est une autre si vous avez déjà rédigé des articles pour vos professeurs de lycée. Êtes-vous d'accord ou non avec la peine de mort? Bien sûr, dans le Massachusetts, ces choses ont disparu depuis longtemps, et dans des endroits comme le Texas et la Floride, la peine de mort est encore appliquée jusqu'à ce jour. Les gens paniquent selon toutes sortes de situations. Comment s'y prenait-il à l'époque biblique? Faux prophète. Il est dit dans Deutéronome 13, 10 que si ce type est un faux prophète, il doit être mis à mort. Maintenant, je veux que vous posiez une question à ce sujet. Vous avez lu une bonne partie de la Bible maintenant. Vous n'avez pas encore lu les prophètes. En Israël, quand ils avaient de faux prophètes, les mettaient-ils généralement à mort ou les applaudissaient-ils généralement? Oui, ils les applaudissaient généralement. Ainsi, alors que le Deutéronome dit que les faux prophètes devaient être mis à mort, ce sont généralement les faux prophètes qui étaient félicités. Tout le monde aimait les faux prophètes parce qu'ils disaient « paix, amour et harmonie ». Les vrais prophètes ont dit « repentez-vous, Dieu va vous juger ». Les gens n'aimaient pas ça dans l'Ancien Testament. Qu'est-il arrivé aux vrais prophètes? Les vrais prophètes ont-ils été massacrés? Donc, ce que j'essaie de dire, est-ce qu'il y a une dissonance entre ce que disaient les lois du Deutéronome et ce qu'Israël pratiquait réellement? Mais je vous demande qu'en Amérique, y a-t-il une divergence entre les lois et ce qui est pratiqué? Donc, pour les faux prophètes, Israël n'a pas fait cela. Ils auraient dû le faire, selon la loi, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, je veux poser une autre question. Aurait-il dû faire cela ou existe-t-il une autre façon d'envisager ces lois sur la peine de mort? Et donc je veux poser cette question. Nous allons y revenir dans une seconde. Permettez-moi d'en mettre d'autres là-haut. Les idolâtres devraient être mis à mort. Quel est le problème avec ça? Si la personne est idolâtre, elle doit être mise à mort. Y avait-il des rois idolâtres? Oui, le nom de ce type est Manassé et Salomon. Manassé, ou si vous n'aimez pas Manassé, vous pouvez faire Achabé et sa femme Jézabel. Vous avez donc des idolâtres qui devaient être mis à mort. Encore une fois, Israël a-t-il mis à mort les idolâtres? Certains de leurs rois étaient idolâtres. Ces lois ne semblaient donc pas très bien suivies en Israël. Maintenant, en voici quelques-uns qui deviennent plus difficiles. Regardez celui-ci, un fils rebelle doit être mis à mort. Tu dis, Hildebrandt, tu serais un homme mort. Le fils rebelle devait être mis à mort. Vous dites, sainte vache, mise à mort pour s'être rebellé contre tes parents. D'ailleurs, notre culture n'est-elle pas bâtie sur la rébellion contre les parents? Parce que les parents sont des imbéciles, ils sont d'une génération précédente et ils ne savent rien, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Je veux dire que beaucoup d'entre eux n'ont même pas des iPhones puants. Comment peuvent-ils savoir quoi que ce soit sur la vie s'ils ne sont pas sur Facebook? Ce que je dis ici est terrible parce que Facebook devient un peu trop personnel. Quoi qu'il en soit, j'ai franchi la limite là-bas. En fait, je l'ai fait exprès. Mes enfants m'ont dit de ne pas utiliser Facebook et j'ai suivi leurs conseils. F de la loi comme déclaration de valeur 23, 34-27, 37. Je veux revenir sur cette peine de mort pour ces choses. J'ai demandé à mon gendre maintenant, en fait, il est avocat à l'université de Chicago. Il est diplômé de l'université de droit de Chicago. Il travaille pour le Heritage Center à Washington DC. C'est un groupe de réflexion là-bas et il travaille avec la Cour suprême. En fait, il connaît certains membres de la Cour suprême. En fait, il s'est présenté devant le Congrès. Donc ce type connaît le droit, il a enseigné le droit. C'est quoi cette école à Cleveland, c'est Case Western ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, il a enseigné à Case Western et il a enseigné le droit dans d'autres écoles. Alors je lui ai posé des questions sur ces lois sur la peine de mort et j'ai répondu, il semble vraiment que je ne puisse pas comprendre ces lois sur la mort concernant le fils rebelle. La non-vierge qui se marie, dites-vous, sainte vache, la moitié de notre culture serait éliminée. Une non-vierge qui se mariait devait être mise à mort. Ce que Robert m'a dit, et je pense que c'est vraiment un bon morceau de sagesse de sa part, ce qu'il a dit, c'est que bien souvent, les codes de droit ne sont pas nécessairement destinés à être réellement mis en œuvre, mais que les codes de droit eux-mêmes établissent un ensemble de valeurs. En d'autres termes, il sanctionne des valeurs en disant, ces choses sont importantes. Un fils rebelle, quelle est la valeur que cela sanctionne? Cela remonte en fait aux 10 commandements qui disent quoi? Honorez votre père et votre mère. D'ailleurs, est-ce un des fondements de la société? Donc, ce qu'il suggère, c'est que cela ne signifie pas nécessairement que ces choses doivent être mises en œuvre, mais qu'elles suggèrent les valeurs de Dieu et la force avec laquelle il s'oppose à quelque chose. Maintenant, est-ce que cela vous aide? Voyez-vous le commutateur là-bas? 2. Voici ce que vous devez mettre en œuvre. A. Voici une série de valeurs qui sont inculquées. Il suggère que pour le droit en général, la grande question est souvent de savoir comment inculquer un certain ensemble de valeurs. Cela me semble logique. Maintenant, question, est-ce que cela résout totalement le problème pour moi? Non, mais cela m'aide et je suis aidé à environ 80 ou 70%. Il y a donc encore des choses sur lesquelles je me pose des questions, mais cela m'aide. Anna dit, comment cela signifie-t-il quelque chose, alors cela n'a aucun sens si ce n'est pas appliqué, c'est exactement ce que dit Robert. Vous pensez à l'application de la loi, il dit, non, la loi elle-même est censée être une déclaration de valeur sociale. Il dit que ce sont des valeurs dont vous avez vraiment besoin au cœur de votre culture. Ainsi, chaque culture a ses lois, ce qui ne signifie pas nécessairement que les lois seront appliquées exactement comme elles le sont dans les livres de droit, mais qu'elles énoncent ce qu'une culture valorise et ce qu'elle dévalorise. Ce que je dis, c'est que toute la façon dont nous concevons le droit doit changer et je pense que cela m'est utile. Ce qu'il finit par dire, c'est que les lois sont des signaux de valeur, qu'elles ne sont pas simplement des codes moraux et juridiques. J'ai peur d'y penser comme à un code juridique clairement moral et ce que Robert a fait, c'est me ramener aux valeurs sociales. Maintenant, question, je pense qu'Anna a quelque chose là aussi. Quelque chose vous dérange? Certains d'entre vous veulent toujours le voir comme un code juridique parce qu'il est rédigé de cette façon. Je ne suis pas encore prêt à abandonner. Mais cette autre façon m'aide à l'adoucir un peu. C'est donc juste une chose à laquelle je veux que vous réfléchissiez, mais vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec cela. Pour être honnête avec vous, je n'y avais jamais vraiment pensé de cette façon jusqu'à ce que l'année dernière, nous ayons eu cette grande discussion à ce sujet et cela avait du sens. J'ai Lex Taglioni, œil pour œil 27, 38-33, 18. Maintenant, d'autres lois difficiles sont les lois sur le démembrement. C'est une solution simple que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle la Lex Taglioni. C'est, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, vous dites quel est le problème avec ça. Alors il vous arrache une dent. Vous lui arrachez une dent. Œil pour œil, dent pour dent. Alors nous serons tous édentés, n'est-ce pas? Comment est-ce que c'est de la justice? Œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, laissez-moi juste vous dire, est-ce la justice? Œil pour œil, dent pour dent. En d'autres termes, ce que cette loi essaie de dire, c'est que la punition est égale au crime. Maintenant, ce qui peut arriver dans certaines cultures, c'est-à-dire le code d'Hammurabi et certaines autres cultures, est-il possible que vous cassiez une dent à quelqu'un? Si cette personne est un roi, il vous enlèvera la tête pour lui avoir arraché une dent. Donc, cela veut dire que vous ne pouvez pas réagir de manière excessive. En d'autres termes, dent pour dent, les dégâts que vous avez causés sont la punition que vous recevez. Il faut que ce soit égal. Vous ne pouvez pas réagir de manière excessive et dire que je suis le roi et qu'il m'a cassé une dent, lui a arraché la tête. Dans certaines autres cultures, cette réaction excessive est courante. Si vous faites quelque chose de mal, il y a une réaction totalement excessive selon la personne à qui vous l'avez fait. Œil pour œil, dent pour dent, dit que le crime et le châtiment doivent s'accorder. C'est donc réellement utile pour s'assurer qu'une personne ne réagit pas de manière excessive. L'un d'entre vous a-t-il déjà été dans des situations comme celle-là où il y a une vengeance? Quelqu'un fait quelque chose à la personne et la personne répond de plus en plus durement. Ensuite, cette personne répond plus durement et la situation ne fait que dégénérer. Ce que dit la loi, non, œil pour œil, dent pour dent. Comme cela a été fait, la punition doit être à la hauteur du crime. L'autre chose avec ça, et cela se passe en Amérique, je regardais ça hier soir, c'était plutôt intéressant. Il y a un gars qui vient cambrioler un magasin 7-Eleven. Disons qu'il a une arme sur lui et qu'il y a une grand-mère de 72 ans, c'est à 1h du matin, elle est en train de parler au gars du magasin 7-Eleven. Un gars entre pour cambrioler le magasin. Tu sais ce que fait grand-mère? C'est la vérité honnête. Cette grand-mère attrape ce scanner et elle commence à s'en prendre à ce type quand ce type essaie de voler des trucs. Ce type essaie de voler ce truc et mamie fait comme ça. Tout est filmé, donc c'est la chose la plus drôle. Elle bat ce type. Le gars vole les trucs, il sort du magasin en courant. Supposons maintenant qu'il se soit fait prendre en Amérique. Il a volé 100 dollars et a été blessé à la tête par Granny. Elle a gagné. C'était assez impressionnant. Je ne voudrais pas m'embrouiller avec cette femme. Donc, dans notre culture, ce qui se passe est le suivant, il a volé les 100 dollars, il a une arme sous le bras. Que lui arriverait-il? Serait-il mis en prison pour vol à main armée? J'espère qu'il sera mis en prison. Alors en Amérique, est-ce qu'on incarcère les gens pour les punir? Combien de personnes sont en prison aux États-Unis? Est-ce 2 ou 3 millions? Le chiffre de 2 millions me reste en tête. Maintenant, je ne suis pas sûr. Je pense que ce chiffre me reste en tête. 2 millions de personnes incarcérées. Est-ce que ça fait beaucoup de monde en prison? À propos, est-ce que cela coûte vraiment beaucoup d'argent à l'Amérique pour maintenir les gens en prison? Quel est le coût d'une incarcération d'une personne pendant un an? Je crois que c'est plus de 30 000 dollars. Au fait, si vous venez de Californie, j'espère que personne ne vient de Californie. Mais si vous venez de Californie, ils ont tellement de gens incarcérés dans leurs prisons et leurs budgets sont endettés. La Californie est donc sous l'eau de milliards de dollars et ce qu'ils disent, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de garder ces gens en prison. Ils allaient donc relâcher ces types dans la rue parce qu'ils n'avaient plus les moyens de les garder dans nos prisons. Maintenant, quel est le problème dans les temps anciens? Avait-il des prisons dans les temps anciens? Les rois avaient accès aux prisons, mais très peu. Joseph était en prison. Mais seul le roi aurait une telle prison. Donc ce que je dis, c'est que lorsqu'une personne commet un crime, pourriez-vous avoir le privilège de la mettre en prison? Si un voleur à main armée vient cambrioler un 7-Eleven à Bethléem, ils n'ont pas de prison pour l'incarcérer. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils doivent répondre immédiatement à la justice. En d'autres termes, ils doivent rendre justice immédiatement s'il n'y a pas de prison. Même dans certaines de nos prisons, essaient-ils parfois d'agir immédiatement? Avez-vous déjà entendu ça? Si un homme vole quelque chose à quelqu'un, il doit retourner faire face à la personne à qui il a volé et lui rendre le double de ce qu'il a volé, 3 fois, 4 fois ce qu'il a volé à cette personne. Est-ce vraiment une bonne chose qu'ils doivent faire face au dommage qu'il a causé à une autre personne? Oui. Maintenant, nous avons de grands criminels comme Bernie Madoff. Il a dû faire face aux gens qu'il avait arnaqués et il s'est moqué d'eux. Je dis donc qu'il semble y avoir peu de remords. Mais il semble y avoir quelque chose dans l'Ancien Testament où vous avez volé quelque chose, puis vous avez dû le rembourser avec 20%. Il n'avait pas de prison. Vous ne pouvez pas les mettre en prison. Donc, s'ils font quelque chose et que cela détruit votre main, alors vous détruisez la main de cette personne. C'est donc une justice immédiate qui est rendue, œil pour œil, dent pour dent. En raison du manque de prison, ils ont dû rendre la justice différemment. H. Polygamy 33, 19-35, 00. En voici une autre, les lois sur la polygamie. La Bible contient des lois sur la polygamie. Deutéronome chapitre 21, verset 15, si un homme a deux femmes et qu'il aime l'une mais n'aime pas l'autre. Attendez une minute, êtes-vous en train de me dire que la Bible approuve la polygamie? Chapitre 21, verset 15, il est dit que le gars a deux femmes et qu'il aime l'une mais déteste l'autre. Il y a une loi dans la Bible à ce sujet. Cela signifie-t-il que Dieu approuve la polygamie? Non, Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. Cependant, à l'époque, les gens entretenaient des relations polygames. Jacob avec Rachel et Léa. Bila, la servante, etc. Cette loi protège qui? Quelle femme protège-t-il? Quelle femme a besoin de protection? La femme mal aimée. Donc, ce que dit cette loi, c'est, si un homme a deux femmes, la femme mal aimée doit être protégée. Il doit la nourrir, il doit bien la traiter. Les enfants de la femme mal aimée reçoivent également une partie de l'héritage. Vous ne pouvez pas déshériter. La femme mal aimée. Cette loi protège-t-elle la femme mal aimée? Est-ce une bonne chose? Eh bien, la meilleure chose est qu'il n'y a pas de polygamie, mais il est dit que s'il y en a, et dans cette culture, il y en avait, alors il faut protéger l'épouse mal aimée. Ce sont les lois sur la polygamie. Et loi sur l'esclavage 35, 01 37, 45. Celui-ci est similaire. Loi sur l'esclavage, chapitre 15, verset 12. Ainsi, si un compatriote hébreu se vend à vous et vous sert pendant 6 ans, la 7e année, que se passe-t-il? Il est libre. Alors oui, il y a des lois sur l'esclavage dans la Bible, cela veut-il dire que la Bible approuve l'esclavage? Au fait, est-ce un esclavage de type africain, aller là-bas, capturer les gens, les mettre sur des bateaux, les arrêter ici et ensuite ils deviennent les esclaves de cette personne pour le reste de son existence? Cela revient à dire qu'un gars se vend à quelqu'un et qu'à la 7e année il est libéré. Pourquoi une personne se vendrait-elle à quelqu'un d'autre? Dette. Dans notre culture, nous appellerions cela la servitude pour dette. Certains appelleraient-ils cela une faillite? En d'autres termes, ce type fait faillite et n'a pas les moyens de nourrir sa famille. Avait-il eu des famines à l'époque? Lorsqu'il y avait des famines, on ne pouvait pas courir à l'épicerie, il n'y avait rien à manger et votre famille mourait de faim. Alors vous vous vendez à un homme riche, vous l'aidez à récolter ses récoltes et vous obtenez quoi? Vous obtenez de la nourriture pour votre famille, afin que vous puissiez nourrir votre famille. Après 6 ans, vous pouvez recommencer. La Bible contient des lois sur l'esclavage mais elle protège l'esclave. S'agit-il de lois strictes? Mais au fait, leur culture est-elle différente de la nôtre? Oui. Mais ils font les choses différemment et bien sûr ils ont tort. Voyez-vous l'ironie là-dedans? Nous pouvons nous asseoir sur un siège de jugement. Ce qui est ironique pour moi, c'est à quel point notre culture est devenue critique si vous ne vous adaptez pas à notre petit monde informatique du 21e siècle. En fait, au cours des dernières années, j'ai vu des étudiants se resserrer de plus en plus, jusqu'à l'année dernière, lorsque j'ai demandé à un étudiant quelle était la chose la plus importante que vous retiriez de l'Ancien Testament et il a répondu, Dieu tue les bébés. Maintenant, je dis que j'espère que vous surmonterez cela et que votre réflexion va un peu plus loin. Donc ce que je dis, c'est que vous devez lutter avec la vraie vie et un Dieu qui est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer et vous devez sortir de votre façon américaine de voir les choses. J. Animo 37, 46-41, 51. Le traitement des animaux est un autre sujet vraiment intéressant. Le Deutéronome a en fait des lois concernant les animaux. Quelles sont les lois concernant les animaux? Bien entendu, ces lois ne s'appliquent pas aux chats. J'ai toutes ces blagues sur les chats mais elles ne plaisent pas à certaines personnes. Le chapitre 22, verset 10, en est un exemple. Il existe en fait de nombreuses lois sur les animaux. Il est dit, ne labourez pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Maintenant, pourquoi est-il dit de ne pas labourer avec un bœuf et un âne ensemble? Un bœuf est-il un animal massif? Un bœuf peut-il très bien tirer une charrue parce que c'est un animal vraiment fort? Un âne, c'est quoi? Un petit animal maigre. Les ânes sont bons à monter, mais ils ne sont pas nécessairement bons pour labourer par rapport à un bœuf. Vous mettez un âne et un bœuf ensemble, est-ce un vrai problème pour l'âne? Et d'ailleurs, c'est aussi un problème pour le bœuf, car le bœuf va faire tout le travail pendant que l'âne chevauche. Il est donc dit, n'attelez pas un bœuf et un âne, parce que ce n'est juste envers aucun des deux animaux. Est-ce que cela se retrouve même dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, il est dit, ne soyez pas sous un joug inégal avec les incroyants. Vous voyez donc une adaptation de cette loi du bœuf et de l'âne. Paul dans 2 Corinthiens dit, les croyants ne devraient pas se marier avec des incroyants. Ne soyez pas sous un attelage inégal. Il applique alors cette loi à cette situation. Alors ne associez pas un âne et un bœuf car ce n'est juste pour aucun des deux animaux. Passez au chapitre 25, verset 4, qui est une autre loi intéressante sur la situation animale. Deutéronome 25.4, ne muselez pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Ce qui arrive, ils prennent les tiges du grain, ils coupent le blé et l'étalent, et le bœuf se promène dessus. Maintenant, quand il se promène dessus, que fait-il? Ses pieds écrasent le grain. Il y a ses coques autour du noyau, les grains sont durs et les coques ne le sont pas. Le bœuf marche dessus et décortique le grain, puis les gens jettent le grain en l'air et la balle s'envole. Mais c'est le bœuf qui marche dessus. Avez-vous déjà mangé des noix noires? Si vous obtenez des noix noires, vous les mettez dans votre allée et vous conduisez votre voiture dessus et elle écaille les noix noires automatiquement. J'ai de l'expérience dans ce domaine car quand j'étais plus jeune, mon père me faisait le faire à la main et mes mains étaient tachées de noir et chaque année j'allais à l'école. Alors j'y suis allé avec mes mains dans mes poches et ensuite nous avons appris cette astuce pour conduire la voiture dessus. C'était vraiment génial, c'était comme un bœuf, mais faut-il nourrir le bœuf? Oui, il faut mettre de l'essence dans le réservoir. Qu'est-ce que cela signifie nourrir le bœuf? Cela signifie que le bœuf fait du travail pour vous et quand un bœuf fait du travail pour vous, il devrait récupérer une partie du grain pour lui-même. Il est tout à fait juste pour le bœuf que s'il fait tout le travail, il reçoive une partie de la nourriture. En d'autres termes, vous avez des animaux, devez-vous en prendre soin? Êtes-vous tenu par la loi de prendre soin de vos animaux? Oui. S'ils font leur travail à votre place, ils devraient obtenir une part des bénéfices pour eux-mêmes. C'est juste. Ainsi, même les animaux ont des droits dans l'écriture de Deutéronome 25. Il y a 3 ans, j'ai entendu une femme faire une conférence sur les lois sur les animaux dans le livre de Deutéronome et c'était absolument génial. C'était tellement intéressant toutes ces lois concernant les animaux. La Bible, c'est terrible, a-t-elle une très haute vision du genre humain? Oui. Mais la Bible a-t-elle également une très haute opinion des animaux et de leur traitement? Oui. C'est donc intéressant et voici quelques lois sur les animaux. Cas Israël et l'Église 41, 52-47, 15. Voici quelques dernières questions concernant l'Église et Israël. L'Église n'est pas Israël. Israël est une nation. La nation a-t-elle besoin de lois sur le meurtre? La nation a-t-elle besoin de lois contre le vol? La nation a-t-elle besoin de lois contre le viol? L'Église est-elle une nation? L'Église n'est pas une nation, elle ne rend donc pas la justice et elle n'a pas de tribunaux en soi au sens civil. Vous devez donc faire une distinction entre Israël et l'Église. Israël va avoir des lois nationalistes qui ne sont pas destinées à l'Église. Quelles sont les différences? Israël est une nation, l'Église est une assemblée ou un groupe de personnes, donc c'est différent. Il faut les séparer. L'un des éléments fondamentaux que j'examine est le principe sous-jacent. Dans bon nombre de ces lois, leur culture, il y a 3000 ans, était très différente de la nôtre. Alors, comment retirer ces lois du Deutéronome et les appliquer aujourd'hui? Au fait, Paul les a-t-il appliquées dans le Nouveau Testament? Quelqu'un se souvient-il de « ne muselez pas le bœuf pendant qu'il foule le grain » Est-ce que cela s'applique dans le Nouveau Testament à quelqu'un qui travaille pour vous, si vous le nourrissez et en prenez soin? Faut-il payer un salaire décent à la personne qui vous rend service? Tout comme vous ne muselez pas le bœuf, celui qui fait le travail pour vous doit en avoir une part. Ainsi, dans le Nouveau Testament, il est appliqué aux anciens de l'Église que s'ils travaillent pour l'Église, ils doivent être payés. Vous recherchez donc les principes sous-jacents. Quels sont les principes sous-jacents au divorce? Qu'a dit Jésus à ce sujet? Quel est le rapport de la culture par rapport au droit? Jésus a dit que Dieu a permis le divorce à cause de la dureté de votre cœur. Dieu approuve-t-il le divorce? Non. Dans Malachie, Dieu dit qu'il déteste le divorce. Pourtant, il l'a permis à cause de la dureté de leur cœur. S'il n'autorisait pas le divorce, que ferait-il? Il s'entretuerait. Est-ce que cela se produit encore aujourd'hui? Je pensais justement, tu te souviens de cette affaire au Tennessee? Cette femme disait que ce type se plaignait de sa nourriture brûlée, alors elle a pris un fusil de chasse de calibre 12, le gars était au lit, bam bam, elle tire sur ce type dans le dos pendant qu'il est au lit parce qu'elle a brûlé la nourriture et il a dit quelque chose à propos de il. Ainsi, dans le mariage, il y a des conflits, et si vous n'autorisez pas le divorce, les gens s'entretueront comme ils le font jusqu'à ce jour. Cela ne veut donc pas dire que Dieu approuve le divorce. Il faut regarder le principe sous-jacent. Le mariage doit-il être un lieu d'amour et d'harmonie entre deux personnes? Oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut adopter des positions réalistes sinon ils vont s'entretuer. Si le bruit monte à ce point, permettez-leur de divorcer. Quel est le principe sous-jacent? Il vaut mieux divorcer que mourir. Ainsi, la loi n'est pas faite parce qu'il aime le divorce, mais elle est faite en raison du principe sous-jacent de la valeur de la vie. Celui-ci est nouveau pour moi. La loi est un signal de valeur, la loi montre ce que Dieu approuve et ce qu'il valorise. Si vous avez deux épouses dans une situation polygame, de qui Dieu se range-t-il du côté de l'épouse aimée ou de l'épouse mal aimée? Dieu protège-t-il les opprimés? Serait-ce un principe sous-jacent, Dieu protège-t-il l'opprimé, la femme mal aimée? Dieu fait ses lois qui aident à protéger les pauvres et ceux qui souffrent. Le Deutéronome en est plein. Donc la loi est un signal de valeur plus que le fait que ce sont des exigences légales, ils doivent le faire, ils doivent tuer les faux prophètes et les idolâtres. C'est une déclaration de valeur selon laquelle les idolâtres et les faux prophètes sont vraiment mauvais et Dieu ne les aime pas. Israël n'est pas l'Amérique. L'Amérique a des prisons et nous pouvons donc résoudre certains de nos problèmes de justice en mettant les gens en prison. D'ailleurs, combien d'entre vous préféreraient obtenir justice immédiatement plutôt que d'aller en prison? Serait-il presque préférable de prendre ces médicaments et d'en finir plutôt que de rester en prison pendant 2 ou 3 ans, 4 ou 5 ans, 10 ans? Il faut donc réfléchir à cela en termes de manière dont la justice est distribuée et je ne suis pas sûr que la prison soit toujours aussi juste ou humaine que nous le prétendons. Ce sont quelques-unes des choses qui nous ébranlent, je ne dis pas que j'ai des solutions pour tout cela, je veux juste que vous regardiez certaines de ces choses et que vous disiez « Waouh, il y a beaucoup de choses à penser ici ». L. Ancien Testament et Changement 47, 16-48, 54. Parfois, la Bible elle-même entre en conflit. Dans l'Ancien Testament, les Juifs devaient-ils manger du jambon? Allaient-ils manger du homard? Devaient-ils manger du poisson chat? Ils sont censés manger cacher dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous dit-on que nous ne sommes pas obligés de manger cacher. Nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes plus obligés de manger cacher. Dans Actes chapitre 15, vous avez ce conflit où il est demandé à Pierre de se lever et de manger des choses qui ne sont pas cachères. Dieu dit, non, Pierre, ces gars sont des gentils qui entrent dans l'église maintenant et les gentils ne sont pas obligés de manger cachère, et ça va. C'est donc un conflit entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament dit qu'il est temps de changer, qu'ils n'ont pas besoin de manger cachère et qu'ils n'ont pas besoin d'être circoncis. Et tous les païens de Dieu dirent, Amen. Voyez-vous ce que je dis? Il y a aussi des transitions au fil du temps avec certaines de ces choses, vous devez donc poser des questions de développement. Cela a été des choses assez difficiles et je ne dis pas que nous avons tout résolu, mais une chose que nous avons résolue est que c'est la fin du Deutéronome. Le livre du Deutéronome est un livre merveilleux, c'est un livre de renouvellement d'alliance dans lequel Moïse donne le leadership à Josué et il renouvelle l'alliance. Il le résume, met en place les institutions pour Israël dans le futur. Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, c'est donc une grosse affaire. Monsieur Introduction à Josué 48, 55-51, 09. Ce que je veux faire ensuite, c'est aller voir Joshua, nous allons avoir un tas de cartes, et nous allons mettre cela en place. Josué implique la prise de la terre promise. Vous allez être le Jourdain, je suis la mer morte, et ici c'est le pays d'Israël, et vous êtes la mer Méditerranée. Donc la géographie ici dans cette classe, je veux la mettre en place. Josué va emmener le peuple dans la terre promise. Nous allons examiner trois victoires, deux problèmes, puis le problème de la guerre. Discutons d'abord de la nature et de la transition des dirigeants. Il y a, dans le livre de Josué, une transition dans le leadership, la transition se fait de Moïse à Josué. Chaque fois qu'il y a une transition de leadership, des problèmes peuvent survenir. Certaines personnes vont-elles être fidèles à l'ancien leader? Le nouveau dirigeant va-t-il procéder exactement de la même manière que l'ancien dirigeant? Non. Au fait, aimeriez-vous être Joshua? Moïse était-il l'homme? Il a écrit 5 livres de la Bible, monte au mont Sinaï et en redescend avec les 10 commandements. Moïse parle à Dieu face à face. Maintenant Josué arrive et il doit remplacer Moïse. Aimeriez-vous enfiler ses chaussures? Ce sont de grosses chaussures. Joshua a beaucoup à remplir. Alors maintenant, il y a cette transition de leadership dans le livre de Josué, nous allons en voir beaucoup au début. Mais ce que vous découvrez, c'est que Dieu est le héros toujours présent. En fait, ce n'était pas Moïse mais c'était la présence de Dieu qui divisait la mer Rouge, c'était Dieu donnant la loi au Sinaï. Donc ce que vous avez, c'est que Dieu va venir et dire, « Maintenant Josué, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. » Dieu était le héros omniprésent. Alors maintenant, Dieu va être le leader pour ainsi dire, comme il a dirigé par l'intermédiaire de Moïse, il peut diriger par l'intermédiaire de Josué. L'accent doit donc être mis sur le Seigneur lors de la transition du leadership. N. Le besoin d'encouragement du leader 51, 10, 53, 08. Les dirigeants se dépriment-ils vraiment? Moïse, l'homme Moïse, est-il déjà descendu? À tel point qu'il a dit, que Dieu me prenne la vie, si c'est ainsi que tu veux me traiter. Moïse s'est vraiment énervé et s'est mis à terre. Vous allez voir cela se produire avec Élijah aussi. Beaucoup de dirigeants de l'Ancien Testament vont vraiment s'effondrer. Jérémie écrit le livre des Lamentations, qui dit tout. Beaucoup de ces gars sont vraiment déprimés. Dieu vient vers Josué, et regardez ce qu'il dit, c'est plutôt drôle ici, je pense que c'est notre prochain point. Regardez ce qu'il dit. Personne ne pourra te tenir tête Josué, tous les jours de ta vie. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te quitterai jamais ni ne t'abandonnerai. Est-ce une belle déclaration? Je ne te quitterai jamais ni ne t'abandonnerai. Dieu dit à Josué, Emmanuel, je serai avec toi. Mais ensuite il dit, soyez fort et très courageux. Dieu va dire à plusieurs reprises à Josué, sois fort et courageux. Cela me fait penser que Joshua était un peu nauséeux à l'idée d'assumer ce rôle de leadership. Dieu lui dit, sois fort et très courageux car tu conduiras ce peuple à hériter de la terre que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Puis il le répète, sois fort et très courageux et veille à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ensuite, si vous descendez au verset 9, il dit encore, « Ne vous l'ai-je pas commandé ? Soyez forts et très courageux. » Alors Dieu dit à Josué, « Je ne sais combien de fois ici, sois fort et courageux. » Apparemment, Josué avait besoin d'encouragement et Dieu va le lui donner, pour lui dire d'être fort et courageux, alors qu'il va diriger son peuple. Aux comparaisons de Moïse et Josué 53, 09, 56, 27. Maintenant, est-ce que les gens comparent l'ancien leader avec le nouveau leader? Avez-vous déjà été dans une église où vous avez un nouveau pasteur et où tout le monde le compare à l'ancien pasteur? Ce type est meilleur, celui-ci est pire. Ce type l'a fait de cette façon, nous l'avons toujours fait de cette façon et c'est une nouvelle autre façon. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui-même dit, Josué, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. La Bible elle-même établit cette comparaison, Josué et Moïse ont tous deux divisé les eaux au début de leur ministère. Moïse divise la mer Rouge et Josué divise le Jourdain. Ils ne le divisent pas, mais les eaux descendent et ils traversent le Jourdain. Comme ils ont traversé l'eau, la mer Rouge ou la mer des roseaux, Josué va traverser l'eau et au chapitre 4 verset 14, cela arrive avec le Jourdain. Ils traversent le Jourdain à sec. Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour Moïse. En Josué, Dieu endurcit le cœur des Cananéens. Alors les Cananéens résistent. Ainsi, Dieu endurcit le cœur des ennemis de Moïse et Dieu endurcit le cœur des ennemis de Josué. C'est une question intéressante, je pense que c'était dans Exode 17, Moïse part au combat et Moïse lève sa lance et quand il lève sa lance, que se passe-t-il? Il gagne, et vous souvenez-vous que sa main se fatigue et que sa lance tombe, puis il perd. Aaron et Hur lèvent les mains. Donc vous avez ces deux gars qui tiennent les bras de Moïse et très vite ils se fatiguent, alors que font-ils? Ils finissent par placer des pierres sous les mains de Moïse pour maintenir la lance là-haut. Josué part également au combat et devinez ce qu'il fait. Tient le javelot et il gagne la journée. C'est la même chose que Moïse a fait. Tenez le javelot et remportez la victoire. Vous obtenez le même genre de choses, Moïse l'a fait en brandissant le javelot pour revendiquer la victoire, tout comme Josué. En voici un autre. Leurs victoires sont mises côte à côte. Je pense que c'est dans le chapitre 12 de Josué. Il énumère ici les victoires de Moïse, et ensuite les victoires de Josué. Ils sont mis côte à côte pour comparer les deux, et c'est juste intéressant qu'ils soient là parallèles. Puis, enfin, et c'est aussi une question très intéressante, Moïse voit l'ange du Seigneur. Où Moïse rencontre Théil pour la première fois l'ange du Seigneur. Dans un buisson ardent. Moïse voit le buisson ardent et il s'approche et dit, « Oh, regarde ce buisson ardent !» Il s'approche du buisson ardent et que lui dit l'ange du Seigneur. Enlevez vos chaussures, vous êtes en terre sainte. Alors Moïse dit, un buisson ardent, un buisson qui parle. Quel est ton nom? Et il dit je suis ce que je suis. Josué rencontre un ange du Seigneur. Il arrive et l'ange du Seigneur lui dit, devinez quoi? Enlevez vos chaussures, vous êtes en terre sainte. Alors tous deux s'approchent de cet ange du Seigneur et tous deux enlèvent leurs sandales car ils sont en terre sainte. Donc ce que j'essaie de dire, c'est qu'il semble y avoir ce parallèle établi entre Moïse et Josué qui est fait dans les premiers chapitres de Josué. Paix tout Israël ensemble, unité 56, 28-58, 43. Maintenant, quelques éléments de contexte, nous vivons une période unique dans l'histoire d'Israël. Tout Israël est ensemble. C'est un peu comme au début de l'Amérique, où tout le monde était américain et où tout le monde était ensemble. Si vous regardez George Whitefield parcourir la côte, l'une des grandes choses que Whitefield a fait a été de relier les 13 colonies entre elles avec le soutien de son orphelinat en Géorgie. Les habitants du Massachusetts ont contribué à la population de Géorgie, et les habitants du Connecticut ont contribué à la Géorgie. Il part à Philadelphie, et Benjamin Franklin s'engage. Vous avez donc George Whitefield qui parcourt la côte et pour relier les États entre eux. À ce stade, ils luttaient avec leur identité. Vous avez le même genre de choses au début avec Israël. Ce sera une fois où ils seront ensemble. Israël a divisé le nord et le sud, tout comme l'Amérique pendant la guerre civile. Est-ce que quelqu'un se souvient qu'il y avait deux tribus et demi établies en Transjordanie et que les neuf autres tribus et demi se sont rendues dans la terre promise? Il y avait Ruben, Gad et la moitié de la tribu de Manassa qui s'était installée en Jourdain. Ainsi, lorsque Josué traverse le Jourdain, ces tribus veulent-elles y aller ou disent-elles, nous avons déjà notre terre. Nous n'allons pas aller là-bas et nous battre pour vous, nous avons déjà nos terres. Alors, ce qui se passe, leur dit Josué, lorsqu'ils traversent la rivière, combien de pierres ramassent-ils? 12 pierres. Ces 12 pierres symbolisent les 12 tribus. Les habitants de Ruben, de Gad et la moitié de la tribu de Manassé, alors qu'ils possèdent leur territoire, doivent-ils traverser le Jourdain et se battre pour s'emparer de ce pays? Oui, ils le font. Puis plus tard, ils sont autorisés à rentrer chez eux. C'est un moment où tout Israël est ensemble et part au combat. Ruben, Gad et la moitié de la tribu de Manassé doivent donc traverser le Jourdain pour aider les 9 autres tribus et demi. Q signification de Jéricho 58:44-60:05. Pourquoi la prise de Jéricho était-elle si importante? Nous arrivons ici à des cartes dont je veux que vous en preniez note. Jéricho est-il une grosse affaire? Nous avons même une chanson, Josué pour la bataille de Jéricho, qui était autrefois chantée dans les écoles. Mais on ne peut plus chanter ça à l'école, mais peut-être à l'église. Est-ce un peu ironique? Pouvez-vous encore chanter ça dans les écoles publiques? Certaines écoles le font encore, mais vous vous exposez à toutes sortes de problèmes lorsque vous commencez à pratiquer ces activités quasi religieuses. Les gens paniquent dans cette culture maintenant. Tolérance. Où se trouve Jéricho? L'emplacement de Jéricho est d'une importance cruciale. Quand on fait du sport, le premier match de la saison est-il important? Le premier jeu définit en quelque sorte le ténor. C'est donc leur première bataille en terre promise à Jéricho. C'est votre premier match de la saison. Quel est son emplacement? Airmap, enquête sur la géographie 60:06-65:30. Voici l'emplacement, permettez-moi juste de souligner certaines choses ici en termes de cette carte. Voyez-vous ce mur de montagne ici qui descend et il y a un autre mur de montagne ici. Savez-vous ce qu'est la tectonique des plaques? Vous avez ces deux plaques continentales, et les deux plaques se rejoignent ici. Ce qui s'est passé, c'est que les plaques se sont séparées, elles se sont séparées et sont tombées. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'il a essentiellement laissé cette chose qui se trouve à 1270 pieds sous le niveau de la mer, l'endroit le plus bas de la planète sous le niveau de la mer. Toute l'eau va dans la mer salée ou la mer morte, comment sort-elle? Il s'évapore et laisse les résidus derrière lui. C'est pourquoi il contient 33% de sel. Donc ce qui s'est passé, c'est que les deux plaques se sont séparées, vous en avez une ici et une ici. C'est dans un canyon, ou ce qu'on appelle la vallée du Rift, donc vous avez 10 à 20 milles de traversée ici. C'est un canyon entre l'endroit où ces deux plaques se sont séparées. Cela s'étend entre la mer de Galilée, jusqu'au golfe des Hélètes, jusqu'à la mer Rouge et jusqu'en Afrique. Ces deux plaques se déconnectent et vous pouvez le voir ici. Moïse sera ici même, au mont Nebo. Les Israélites campent ici même, dans les plaines de Moab. Moïse va mourir ici sur le mont Nebo. Josué va alors les faire descendre des falaises et traverser le Jourdain. Ils vont traverser le Jourdain à sec et Jéricho sera là. Jéricho est-il dans le canyon ou dans les montagnes? C'est dans le canyon, à environ 800 pieds sous le niveau de la mer. Est-ce qu'il va faire chaud dans les canyons? Est-ce que quelqu'un connaît la vallée de la mort? Est-ce qu'il va faire chaud dans le canyon, extrêmement chaud? 120 là-bas tout le temps en été. Jéricho a une énorme source qui produit, je pense, 10 000 gallons d'eau par heure ou par jour. Il pompe simplement toute cette eau. Question, quand il fait très chaud dans le désert là-bas, avez-vous besoin d'eau? Alors, est-ce que ça va être un endroit vraiment important? Lorsque vous traversez le désert, vous allez chercher votre eau ici à Jéricho et ensuite vous montez à Jérusalem. Avez-vous remarqué que Jéricho et Jérusalem sont en quelque sorte au même niveau? À propos, remarquez-vous qu'au sommet de la mer Morte, il y a environ 3 ou 4 miles d'ici à ici, du haut de la mer Morte à Jéricho. Maintenant, je veux juste dessiner quelque chose ici. C'est ce qu'on appelle la route des rois en Jordanie. Cela s'étendait essentiellement de la Mésopotamie jusqu'en Arabie, jusqu'aux routes des épices. Lorsqu'ils faisaient le commerce des épices, ils empruntaient la route des rois. C'est comme pour vous la route 1. La route 1 monte elle et descend elle l'Amérique du Nord. Vous savez ce que je dis, la route 1. C'est une autoroute majeure, elle s'appelle la route des rois en Transjordanie, à l'est du Jourdain. Et puis il y en a un autre sur la côte. Celui-ci sur la côte est comme RT95. Faites-vous RT95, le long de la côte. Jusqu'à New York. Faites toujours le tour de New York. Vous avez RT95 en hausse. C'est ainsi qu'on l'appelle la route côtière ou la Via Marie chemin de la mer. Si vous avez des marchandises en Égypte et que vous souhaitez les transporter, que faites-vous? Vous remontez la route côtière. Donc, comme RT95 ceci comme RT1. Comment obtenir le formulaire RT1 à RT95 ou de RT95 à RT1, moins Jéricho? Pouvez-vous traverser ici? Vous ne pouvez pas traverser ici parce que vous rencontrez la mer Morte. Voulez-vous traverser ici? Non, tu ne veux pas traverser ici, c'est tout un désert. Vous voulez venir ici, attraper l'autre et monter. Jéricho sera-t-il sur une route commerciale? Au fait, c'est l'ouest, c'est l'est. Jéricho se situe-t-il sur une route commerciale majeure est-ouest? Pas une route nord-sud, mais une route commerciale est-ouest reliant les deux autoroutes de la Nouvelle-Écosse. C'est presque comme un H. Quiconque traverse ici traversera Jéricho. Maintenant, voici une autre façon de voir les choses. Tournez la tête de côté, c'est la mer Morte. Il s'agit en fait d'une image satellite, permettez-moi d'appuyer sur quelques boutons ici. Ici se trouve le mont Nebo, c'est ici que Moïse meurt. C'est là que campent les Israélites, dans les plaines de Moab. Moïse meurt sur le mont Nebo. Josué va traverser le Jourdain. Pouvez-vous voir le Jourdain, la zone sombre qui descend dans la mer Morte? Ils traverseront le Jourdain et frapperont Jéricho. Jéricho sera situé juste là. Jéricho se trouve donc juste à côté des falaises. C'est juste au nord par rapport à la mer Morte, à quelques kilomètres. Peux-tu le voir? Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de Qumran, les manuscrits de la mer Morte? On les trouve dans cette zone et dans le coin nord-ouest de la mer Morte. Est-ce panorama virtuel de Jéricho 65, 31-75, 00? Ne serait-ce pas sympa si nous pouvions aller à Jéricho? Pourquoi ne le faisons-nous pas? Donc ce que j'aimerais faire ensuite, c'est vous emmener à Jéricho. Mais je dois modifier ma résolution d'écran pour la rendre meilleure. Alors un peu de patience s'il vous plaît. Nous voulons aller à Jéricho et nous voilà à Jéricho. Ai-je parlé de ce qu'est un tel dans ce cours? Un tel est un monticule de civilisation, couche après couche de civilisation, comme un gâteau en couche. Peux-tu voir? C'est Jéricho ici même. C'est ce qu'on appelle le tel de Jéricho. Est-ce une couche après une couche de civilisation? Cela remonte à 8000 avant J.C. C'est l'une des plus anciennes villes du monde. D'ailleurs, au début, c'était au rez-de-chaussée. Pouvez-vous voir qu'il n'est plus au niveau du sol, il fait maintenant environ 75 pieds de haut. Pouvez-vous voir qu'il a été construit? Les gens commencent à jeter leurs déchets dans la rue, que se passe-t-il si vous faites ça pendant 100 ans? La ville commence à s'élever. C'est donc ce qui s'est passé. Voici donc Jéricho. Maintenant, je veux explorer Jéricho. Les mêmes choses que vous faites ici sont les mêmes techniques que vous utilisez sur Get Lost in Jerusalem, qui est maintenant en ligne. N'oubliez pas que vous êtes censé faire une visite guidée de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, allons explorer. Pouvez-vous voir sur la carte que vous pouvez survoler ces points et voir les choses sur le côté ici? Bref, allons par ici pour avoir une vue. Vous pouvez maintenant voir Jéricho de côté et si vous utilisez la touche MAJ, vous pouvez zoomer, ce qui est très pratique. Ensuite, vous pouvez regarder autour de vous et vous pouvez faire comme ça et voir toute la ville de Jéricho. Vous pouvez voir ici qu'ils ont une de ces télécabines et que vous montez jusqu'à la falaise. Si vous payez quelques dollars, vous pouvez monter au mont de la tentation où Christ a été tenté sur cette montagne. Regardons autour de nous, laissez-moi juste vous montrer le mont de la tentation, laissez-moi reculer un peu, voilà notre voiture. Laissez-moi reculer un peu et puis ici, voyez-vous cette montagne là-haut? Voyez-vous qu'il y a un monastère au sommet de cette falaise? Cela ressemble à une forteresse mais c'est un monastère. Un groupe de moines vit là-haut, ça s'appelle le mont de la tentation. C'est là qu'il aurait emmené Jésus, rappelez-vous que Satan l'a emmené sur une haute montagne pour lui montrer tous les royaumes du monde, inclinez-vous et adorez-moi, c'est l'endroit. Le croyez-vous? Non, je ne le pensais pas. Personne ne croit cela, sauf les moines qui sont là-haut. C'est donc prétendument le mont de la tentation. Il était une fois, j'ai escaladé ces falaises et j'ai traversé le désert derrière ces falaises sur environ 20 miles, mais je vous raconterai cette histoire plus tard lorsque nous parlerons de la ville d'Aï dans le désert en direction de Gabaon. Revenons à Jéricho. Je vais retourner à Jéricho. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble là-bas, c'est plutôt désertique. Vous pouvez voir leur maison là-bas. Et si tu fais ça, regarde ça. Regarde ça. Est-ce que quelqu'un a le vertige? Allons à Jéricho jusqu'au sommet. Je vais vous emmener sur le côté pour que nous puissions regarder une tranchée, vous pourrez réellement voir où les archéologues ont creusé. C'est un endroit où ils ont creusé. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit? Tu parles de la couche de brûlure. Il y a une couche de gravure. Pouvez-vous voir la couche de brûlure? Vous pouvez réellement voir qu'il fait environ 6 pouces de large. Vous pouvez voir que le sol a été taché de noir par le feu. C'est ce qu'on appelle une couche de gravure. Si vous refusez, c'est un rempart qui mène à Jéricho. Pouvez-vous voir ce que les archéologues ont fait ici? L'archéologue a creusé une tranchée, ils l'ont fouillée, ils ont creusé et ils ont classé tout le matériel qu'il avait extrait de cette tranchée. Ils ne creusent plus de tranchées, c'est une vieille technique que les Allemands utilisaient je pense en 1933. Mais si vous revenez ici et que vous levez les yeux, vous pouvez voir qu'il y a un mur ici. Il y a eu un grand débat sur ce mur, à savoir s'il était en bronze ancien, en bronze tardif, ou pas de bronze. Il y a un grand débat sur les murs de Jéricho. Avez-vous entendu dire qu'ils ont trouvé les murs de Jéricho tombés? Si vous adoptez la position de Canyon, ils disent qu'il n'y a pas de mur. Je viens d'entendre une femme faire un débat à ce sujet et elle a dit que la Bible était fausse. Elle dit d'un point de vue archéologique qu'il n'y avait pas de mur à Jéricho à 12h lorsque Moïse y entra. Il n'y avait pas de mur, donc la Bible est fausse. Ce ne sont que des mythes et des légendes, l'archéologie le prouve. Maintenant, vous dites qu'en est-il de l'étude de Brian Wood sur ce site lorsqu'il dit que la Bible avait raison? À propos, l'archéologie est-elle toujours la même ou change-t-elle d'avis tous les 10 ou 20 ans? Voilà donc un exemple de certains des murs. Il y a un autre endroit où je veux aller. Maintenant, vous voyez comment vous pouvez faire fonctionner cela, lorsque je me retourne et que cela se transforme en flèche. Quand il se transforme en flèche, je peux cliquer là et quand je clique là, j'y vais. Alors maintenant, nous y sommes. Nous revenons maintenant sur ces murs que nous regardions auparavant. Vous pouvez vous déplacer sur le site. Je vais tricher. Au fait, si vous ne savez pas ce que vous regardez, vous pouvez cliquer ici. Il apparaît et vous donne des informations sur ce que vous voyez. Donc gravir la montagne ici. Je vais aller de ce côté-ci. Voyez-vous que c'est la tour ici? On l'appelle une tour néolithique, elle date d'environ 8000 avant J.C. du Nouvel Âge de Pierre. Jéricho est-elle l'une des plus anciennes villes du monde? Vraiment vieux et en grande partie à cause de la source d'eau. Voici une tour vraiment ancienne. Par ici, pouvez-vous voir un peu les pierres, comment elles sont fabriquées en briques crues? Ils ont construit des murs en briques crues, vous pouvez voir la brique crue ici. Eh bien, sortons d'ici. Voyez-vous comment cela fonctionne? Vous pouvez regarder autour de vous. Si vous souhaitez effectuer un zoom arrière, vous pouvez appuyer sur la touche MAJ et vous pouvez zoomer pour le vérifier. Si vous appuyez sur la touche CTRL, vous effectuez un zoom arrière. Je vais revenir à la carte et descendre ici, et en fait, si vous êtes un touriste, c'est ce que vous verrez. Vous voyez les fils là-bas. Ils ont des câbles qui vous emmèneront en gondole jusqu'au mont de la tentation. Est-ce que c'est un peu dégoûtant? Il faut marcher et faire partie du territoire à pied. Mais je fais toujours celui-ci parce que c'est mon préféré parce que, eh bien, mon ami est là. Voyez-vous, est-ce qu'il sourit? Il sourit. Vous savez que c'est un chameau heureux. Et tu vois qu'il a le nez plein. Vous dites, Ril de Brent, de quoi tu parles? Vous verrez que beaucoup de chameaux ont les narines arrachées. Ils font ça et c'est de la cruauté envers les animaux. Est-ce que beaucoup de chameaux ont le nez arraché? Les gens sont vraiment cruels envers les chameaux là-bas. Mais les chameaux sont-ils aussi vraiment méchants? C'est en quelque sorte une rue à double sens. Vous pouvez voir à quel point ce chameau a été bien soigné en regardant son nez. Mais ce type en voulait trop, alors je ne laisserai pas ma femme s'en prendre à celui-là. Le gars du Sinaï l'a laissé monter, il lui a juste attrapé la jambe et c'est tout ce que ça m'a coûté. Alors voici le restaurant de la tentation, c'est le mont de la tentation où le Christ a été tenté. Donc c'est Jéricho et quelqu'un vient de me dire quelque chose de très mauvais. Wesley y est allé récemment, tout l'hôtel a disparu maintenant. Alors ils ont détruit tout l'hôtel. C'est vraiment triste. Alors c'est Jéricho, est-ce que ça vous donne une idée de comment ça marche? Vous aurez Jérusalem et pourrez partir Explorer Jérusalem. Alors permettez-moi de revenir à ma résolution habituelle. Terra AB Jéricho 75, 01 83, 58. Retour à Jéricho. Nous allons parler de Rahab la prostituée et de certaines de ces choses qui se passent avec elle. Josué chapitre 2, permettez-moi de lire les premiers versets sur Rahab. C'est la prostituée de Jéricho. Il est écrit, « Alors Josué, fils de Naon, envoya secrètement deux espions de Chittim et leur dit, « Parcourez le pays, en particulier Jéricho. » Ils allèrent donc et entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Pourquoi irait-il chez une prostituée cananéenne? Serait-il facile d'y accéder, à l'entrée comme à la sortie? Saurait-elle tout ce qui se passe dans la ville? Serait-elle une bonne personne à qui parler si vous êtes un espion? Alors ils entrent, c'est une prostituée cananéenne, et ils restent là. On dit au roi de Jéricho, regardez, certains Israélites sont venus explorer notre pays. Alors le roi de Jéricho dit à Rahab, fais sortir les Israélites qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus explorer tout le pays. Mais la femme avait pris les deux hommes et les avait cachés. Elle a répondu, oui, les hommes étaient venus vers moi, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Question, est-ce un mensonge pur et simple? Dès que ces types auraient prononcé deux mots, aurait-elle su d'où ils venaient et qu'ils étaient juifs et non cananéens? Existe-t-il des différences dialectiques que tout le monde connaît exactement? Je dis, je vais aller chercher mon argent à Boston. Dès que je dis, ch, ou, j'ai eu une bonne idée. Question, savez-vous que je viens de Boston si je dis, idehar? Ils mettent même un, r, dans, l'arbre, ça me rend dingue, je n'arrive même pas à le prononcer. Mais si je dis, vous viendrez tous chez moi ce soir. Maintenant, je viens de passer en dessous du mason Dixon. Ma femme, elle était toujours très en colère contre moi parce qu'elle disait, je n'apprends pas à mes enfants à parler comme ça, parce que nous étions dans le Tennessee. Mais j'ai aimé la façon dont les gens parlaient là-bas. Ils sont vraiment détendus. Mais c'est enregistré, et je serai probablement crucifié. Ma femme est une vraie majeure en anglais, elle parle correctement elle anglais. Rahab cache les deux espions et ensuite elle dit quoi au roi? C'est vraiment cool. Elle dit, ils étaient ici, mais ils sont repartis. Si vous leur courez après, vous pourrez les rattraper rapidement. Alors elle les envoie à la chasse à l'oie sauvage. Au fait, Rahab a-t-elle menti aux hommes du roi? Qu'est-ce que cela vous rappelle, qui a menti pour protéger la vie de quelqu'un et que Dieu a approuvé et béni? Les sages-femmes en Égypte. Avez-vous des juifs dans votre sous-sol? Non, ils sont allés par là. Au fait, Dieu approuve Tehil Rahab. La ville entière est détruite et qui est épargnée? Rahab? Rahab est-elle approuvée par Dieu? Non seulement elle est épargnée, mais dans quelle généalogie Rahab, la prostituée cananéenne, finit-elle? Jésus. Quand vous êtes dans Matthieu chapitre 1 et que vous parcourez la généalogie et que vous voyez Abraham, Isaac et Jacob et cela descend jusqu'au bout, et vous trouvez Rahab la prostituée cananéenne dans la lignée du Messie. Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'en temps de guerre, pouvez-vous utiliser la tromperie, de la même manière qu'au basketball lorsque vous lancez une feinte? C'est accepté dans un contexte de guerre. Les généraux essaient de se simuler. Elle les trompe, et s'en sort elle. Elle s'en sort. Maintenant, que se passe-t-il? Au chapitre 2, il y a une merveilleuse déclaration ici. Écoutez ce que Rahab a dit, avant que les espions ne se couchent pour la nuit, elle monta sur le toit et leur dit, « Je sais que Yahvé vous a donné ce pays. » Notez qu'elle utilise le nom Yahweh, et cette grande peur de toi est tombée sur nous. Pour que tous ceux qui vivent dans ce pays fondent de peur à cause de toi. Nous avons appris comment Yahvé a asséché les eaux de la mer Rouge. Était-elle au courant de la traversée de la mer Rouge? Comment aurait-elle pu le savoir? Lorsque les commerçants sortaient d'Égypte, ils rapportaient cette histoire jusqu'à Jéricho. Ils traversent, connaîtrait-elle ses magasins? Elle le dit aux espions. Les espions ne lui parlent pas de la traversée de la mer Rouge. Elle dit aux espions, « Nous savons ce que votre Yahvé a fait pour assécher la mer Rouge. Et ce que tu as fait à Sion et Ogé, deux rois des Amoréens à l'est du Jourdain, que tu as complètement détruit. Lorsque nous en avons entendu parler, nos cœurs ont fondu et le courage de chacun a disparu à cause de vous. Yahvé votre Dieu est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Est-ce une meilleure déclaration que celle que vous obtenez de la plupart des Juifs? Alors elle continue et dit, s'il te plaît, jure-moi par Yahweh que tu feras preuve de bonté envers ma famille parce que j'ai fait preuve de bonté envers toi. Je te fais preuve de gentillesse, tu me fais preuve de gentillesse Lex Talioni. Dieu épargne Tehil Rahab la prostituée. Elle laisse les gars sortir par la fenêtre, ils disent, « Tu dois attacher un petit cordon rouge à ta fenêtre et ensuite nous saurons que c'est ta maison. » Lorsque les murs s'effondrent, devinez quelle maison reste debout et qui est épargnée. Rahab. Elle est acceptée en Israël et finit dans la généalogie des Messies. C'est une dame incroyable. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose qui vous manque si vous ne connaissez pas la géographie. Quel est le rôle des femmes dans la guerre? Est-ce que les femmes sortent et disent, « Eh, je connais le taekwondo et le jus brésilien. Jitsu, je peux t'éliminer, ou est-ce que les femmes à la guerre déjouent les hommes? » Ils les déjouent. Il faut juste se méfier des femmes avec des clous, des marteaux et des piquets. Donc ce qu'elle fait est vraiment intéressant. Elle est à Jéricho, dans la vallée. Lorsque vous êtes poursuivi par vos ennemis, dans quelle direction allez-vous habituellement? Quand j'étais plus jeune, je ne parle pas des gangs, nous avions deux groupes dans notre quartier, un groupe était composé de fumeurs et de buveurs et les autres étaient des enfants sportifs. Donc en gros, on s'est cogné la tête. Alors ils ont commencé à nous poursuivre et quand vous êtes poursuivi, dans quelle direction courez-vous? Vous rentrez toujours chez vous en courant, et ce qui se passe ici, les espions quittent la ville et retournent naturellement au mont Nebo et vers tous les juifs où ils avaient une protection. S'ils courent dans cette direction, vers l'est, sur qui vont-ils se heurter? Les hommes du roi reviennent du Jourdain. Alors que leur dit Rahab? Elle dit, ne cours pas vers le Jourdain, sinon tu seras capturé. Courez à la place, exactement dans le sens opposé où ils auraient couru, en courant vers les montagnes à l'ouest. Alors elle leur dit de gravir cette montagne, de s'asseoir sur la montagne. Quand ils sont assis sur la montagne, peuvent-ils voir les hommes du roi revenir à la ville? Ensuite, vous les contournez et vous êtes tous en sécurité. Au fait, est-ce vraiment un conseil judicieux et judicieux? Elle est vraiment astucieuse et elle leur donne de très bons conseils et épargne la vie de ces gars-là et c'est comme ça qu'elle gagne la journée. Rahab était donc une vraie dame et elle est le héros. Une traversée du Jourdain 83, 59-89, 21. Ils vont donc remonter jusqu'au Jourdain et traverser le Jourdain. Que savez-vous du Jourdain? Il fait frisqué et froid. Il refroidit le corps et non l'âme. Permettez-moi juste de parler un peu du fleuve Jourdain. Tout d'abord, j'ai grandi sur la rivière Niagara. La rivière Niagara est-elle une vraie rivière? L'un de vous est-il allé aux chutes du Niagara? Elle fait environ un mile de large, c'est une vraie rivière. J'arrive en Israël et je remonte jusqu'au Jourdain. Le Jourdain mesure en moyenne 60 pieds de large et 3 pieds de profondeur. Question, d'où je viens, est-ce une rivière? Nous appelons ces ruisseaux. Mon beau-père est venu nous rendre visite en Israël et nous l'avons emmené partout en Israël et à la fin il s'est un peu énervé contre moi, dit-il, je veux aller voir le Jourdain. J'ai parcouru Israël et je n'ai pas vu le Jourdain. Je dis, grand-père, je ne veux pas t'emmener là-bas. C'est du gaspillage, c'est comme Woods Creek, ce n'est rien. Alors je dis, d'accord. Une nuit, allons-y. Alors je conduis ma voiture la nuit et j'allume mes lumières sur le Jourdain, puis il se met vraiment en colère contre moi et il dit, ce n'est pas la rivière, c'est un fossé d'irrigation. Il s'agissait en fait du Jourdain. Maintenant, vous dites, attendez une minute, que le Jourdain mesure 60 pieds de large et 3 pieds de profondeur, quel est le problème avec la traversée du Jourdain? J'ai oublié de te dire quelque chose. Quand ont-ils traversé le Jourdain? Qu'est-ce qu'ils vont célébrer de l'autre côté quand ils arriveront à Guigal? Ils vont célébrer une fête de Pâques. Ils vont donc traverser le Jourdain et célébrer la Pâques. Savons-nous exactement quand cela se produira? Est-ce au printemps, à l'approche de notre période de Pâques? Quel est le problème avec le Jourdain au printemps, après la saison des pluies, il est en crue? Le Jourdain en crue peut avoir une largeur d'un mile? Au fait, les espions ont-ils traversé la rivière sans intervention divine? Les espions ont-ils traversé le Jourdain seul? Il peut être traversé même en crue par une personne sachant nager. À propos, des gens se sont également noyés dans le Jourdain, je ne veux pas prendre cela trop à la légère. Alors les espions s'en rendent compte. Dieu va-t-il assécher le Jourdain? Oui, il l'est. La traversée du Jourdain, était-ce un miracle ou était-ce dû à des causes naturelles? Au chapitre 3, versets entre 15 et 16, permettez-moi de lire ces versets qui parlent du Jourdain et de son assèchement. Écoutez très attentivement. À propos, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, vous souvenez-vous de ce qui était écrit dans la mer Rouge? Il y avait de l'eau à gauche et à droite entassée, des deux côtés comme un mur. La mer Rouge s'entassait à gauche et à droite lorsqu'ils traversaient, ce qui n'était pas le cas du Jourdain. Aujourd'hui, le Jourdain est en crue pendant toute la période des récoltes. C'est la récolte du printemps, lors de la récolte du blé et de l'orge. Mais dès que le prêtre qui portait l'arche atteignit le Jourdain, lorsque ses pieds touchèrent le bord de l'eau, l'eau dans Hamon cessa de couler. Voyez-vous ce qui se passe? L'eau s'est-elle accumulée comme un mur ou a-t-elle cessé de couler depuis l'amont? Et cela s'est accumulé en tas à une grande distance, dans une ville appelée Adam. À environ 16 km au nord de l'endroit où ils ont traversé, le Jourdain traverse un canyon. Cette paroi du canyon s'est effondrée deux fois dans l'histoire, à notre connaissance. La paroi du canyon s'est effondrée et a formé un barrage qui a endigué le Jourdain. En 1927, un de ces effondrements s'est produit. C'est en fait enregistré, nous en avons une trace écrite. La paroi du canyon s'est effondrée et le Jourdain s'est asséché. Il est dit que l'eau s'est arrêtée à Adam, c'est exactement là où se trouve ce canyon. Est-il possible que Dieu ait utilisé des moyens naturels pour établir ses desseins? Au fait, est-ce encore un miracle? Cela s'est produit deux fois dans l'histoire que nous connaissons, deux fois en 2000 ans. Les prêtres montent et mettent les pieds dedans et tout d'un coup l'eau descend. Est-ce un miracle du timing, à tout le moins? Donc je dis que c'était un miracle de Dieu, mais Dieu pouvait utiliser des moyens naturels et il semble qu'ici l'eau s'est accumulée sur Adam. Il est donc possible qu'il ait utilisé l'effondrement des parois du canyon. question de l'étudiant. Ce qui se passerait, c'est que le canyon s'effondrerait, cela formerait un barrage, et l'eau refluerait, reculerait, reculerait et exercerait de plus en plus de pression sur ce barrage et finirait par le faire exploser. Avez-vous déjà construit des châteaux de sable avec de l'eau et des barrages? Lorsque vous obtenez suffisamment d'eau, l'eau perce et fait déborder tout. C'était donc un miracle de Dieu, mais Dieu a peut-être utilisé l'effondrement du canyon du Jourdain. C'est donc essentiellement de cela dont nous voulions parler, et nous attraperons les 12 pierres la prochaine fois. Il s'agit du docteur Ted Hildebrandt dans son cours d'histoire, de littérature et de théologie de l'Ancien Testament sur les lois difficiles du livre du Deutéronome et une introduction au livre de Josué jusqu'à la prise de Jéricho. Transcrit par Curly Balmer. Brut édité par Ted Hildebrandt II.